juste d'avoir un diplôme bac plus 4, l'équivalent, ce qu'on appelle aujourd'hui un master de lettres. Puis voilà, j'ai commencé à écrire mon premier roman et en même temps, j'ai commencé à travailler aussi dans une maison d'édition. C'était en 76. Ça fait donc combien ? 40 ans. Merci.
Astrid, derrière, vas-y.
La visite de cet ouvrage, est-ce qu'elle est personnelle ou est-ce qu'il y a un message pour le lecteur ?
Je ne sais pas, je me rends pas très bien compte s'il y a un message. Enfin, s'il y a quand même un message. Le message, c'est que c'est quand même un roman sur le thème du mal. Et en particulier, le mal qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que chacun de nous comporte une part de mal et de bien, heureusement. Et que dans certains contextes, dans un certain environnement, un contexte un peu particulier, cette tendance au mal que nous avons, qui est en fait, parce que nous sommes encore des animaux, au fond. Mais nous sommes des animaux un peu particuliers parce que notre intelligence peut servir à... nous sommes un peu plus intelligents que les animaux quand même, légèrement plus. Et cette intelligence peut permettre de mettre en œuvre le mal en nous d'une façon organisée. Enfin bon, disons, je m'écarte un peu. Vous voyez, ce garçon, ce Baptiste, est un garçon à peu près comme vous et moi, à peu près normal. Mais dans certaines conditions, s'il est manipulé, s'il est entraîné dans des circonstances un peu particulières, eh bien... Le mal, même la cruauté qui est naturellement en chacun de nous, peut s'exprimer. On a vu ça pendant le nazisme, par exemple. C'était des gens comme vous et moi qui poussaient les juifs dans les chambres à gaz. Des gens tout à fait normaux, qui étaient des bons pères de famille, des mélomanes, des petits bourgeois, des gens tout à fait normaux. Mais manipulé par une idéologie terrible, leurs instincts, leurs pires instincts se sont mis en œuvre tout à fait naturellement. Donc soyez prudents. Mais le bien, c'est pareil. Hein. Il y a des saints aussi. Ben oui, absolument. Là, c'est le cas. Enfin, c'est pas non plus une intelligence très développée. C'est un peu d'intelligence quand même. Mais c'est pas très difficile de manipuler, en particulier un adolescent qui est un être en devenir, qui est en train de se transformer, qui est un peu à la recherche de ce qu'il est lui-même. C'est pas très difficile de le manipuler. Donc, il ne faut pas non plus une intelligence supérieure pour le faire. En plus, là, les circonstances sont très particulières. Il est particulièrement vulnérable, fragilisé par les circonstances. En plus, on lui file des médicaments, des pilules qui le mettent dans un état un peu particulier. Donc, oui, mais c'est quand même ça. Oui. Oui. Si le projet a évolué pendant l'écriture, la seule chose qui a évolué, c'est que quand j'ai commencé, je ne savais pas comment j'allais terminer, j'allais finir, jusqu'à quel point d'horreur j'allais aller. Évidemment, tout de suite, la perspective de faire quelque chose de monstrueux, ce que j'ai fait, est apparue, mais j'avais quand même quelques scrupules. parce que je suis pas, j'ai pas naturel, j'ai un naturel sadique, mais quand même pas ce point-là, forcément. Donc, je me disais j'avais quelques scrupules à infliger à mon lecteur une fin abominable. Mais néanmoins, je l'ai quand même fait parce que comme c'est un livre sur le mal, c'est quand même impossible de faire un happy end. Ça aurait été complètement détruire mon sujet, quoi, si finalement ça finissait bien. Donc finalement, j'ai accepté le fait de faire cette fin horrible. Mais quand même, je suis toujours un peu gêné moi-même par cette fin. À chaque fois que j'offre ce livre, je m'excuse par avance. Mais bon, je ne pouvais pas tellement faire au fond autrement. Mais c'est toujours un peu ça quand on écrit, en ce qui me concerne, un roman, c'est que je n'ai pas le choix, quoi. Les choses s'imposent d'elles-mêmes. Je n'ai pas trop de choix. Donc là, je ne pouvais pas faire autrement que cette fin. Enfin, toutes les manières, ça pouvait que mal finir. Alors, ça aurait pu mal finir autrement, mais là, j'ai fait vraiment quand même le pire, oui. Oui, parce que c'est quand même la personne... je ne sais pas si vous avez tous lu le livre, à peu près, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, qui vont évidemment le lire dès demain, je ne voudrais pas révéler trop, mais enfin, disons que tout le monde l'a lu. Et donc, ce qu'il fait, c'est le pire qu'est-ce qu'il peut faire, puisqu'il tue la personne qu'il aime le plus au monde. Non, pas du tout, mais je me suis un peu quand même renseigné sur comment ça marche. Quand un otage est libéré, il passe au moins 48 heures de ce qu'on appelle un débriefing, et qui est un débriefing qui est mené par un flic, par les renseignements généraux, par des services de renseignement, disons, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et puis là-dedans, ils sont tous formés, ils ont tous une formation de psychologie. Ils savent comment mener un interrogatoire, en particulier auprès de gens qui sont encore traumatisés par ce qui leur est arrivé. Mais ils veulent quand même obtenir toujours des informations sur leur captivité, sur les ravisseurs, etc. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué que le flic qui mène ce débriefing, il sait depuis le début ce qui s'est passé, en fait. Mais il cherche à le faire dire au jeune Baptiste. Il veut que Baptiste se souvienne lui-même de ce qu'il a fait. Et donc, je me suis un peu renseigné sur les... Mais plutôt a posteriori, c'est-à-dire que j'ai écrit ce dialogue qui est un interrogatoire, et après je l'ai fait lire à deux psychologues pour voir si ça tenait, quoi. Et bon, ça allait à peu près, donc tout allait bien. Ce jeune Baptiste, au moment où il est interrogé, il est dans un état qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Donc, un état de stress qui arrive à tous les gens qui ont subi un traumatisme. Et alors, selon le degré du traumatisme, les conséquences sont un peu différentes. Le traumatisme de Baptiste étant particulièrement lourd, son symptôme, c'est d'avoir oublié, c'est d'être devenu amnésique. Il ne se souvient pas des pires choses qu'il a commises, ce qui est un cas tout à fait courant. Et là, je me suis renseigné sur j'ai fait un peu de recherche sur le thème des enfants soldats. Car en fait, c'est ça le thème. C'est pas du tout le djihadisme, l'islam, ou je ne sais quoi, c'est... Comment on peut enlever un jeune adolescent et le transformer en enfant soldat pour qu'il puisse manier des armes, tuer, commettre des atrocités. Donc, c'est une chose qui arrive assez couramment dans pas mal de pays. Chez les djihadistes en Afrique, c'est assez souvent, c'est assez fréquent. Ils enlèvent les garçons des villages, également les filles des villages. Vous avez vu l'histoire de Boko Haram, où ils ont enlevé le même jour 200 filles dans un collège, et puis des garçons aussi. Et ils les transforment, les garçons, en soldats. En général, d'ailleurs, pour les aguerrir assez rapidement, on leur fait commettre très vite des atrocités, et les pires atrocités, par exemple, leur fait exécuter leurs parents, par exemple. Donc ce sont des traumatismes lourds. Et puis donc après, donc moi j'ai lu le témoignage d'un enfant soldat comme ça, qui s'en est sorti, mais ça a été long, et qui a écrit un livre après. Et il raconte ça, qu'il avait complètement oublié tout ce qu'il avait fait. Et quand il commençait à s'en souvenir, il était tellement épouvanté que le seul moyen de supporter ce qu'il avait fait, c'était de repartir dans la violence, c'était de se réfugier à nouveau dans la violence. Ce qui arrive aussi un peu à Baptiste. Donc voilà, donc mes recherches, ça a été un peu ça, quoi. J'ai pas fait trop de recherches sur les méthodes d'interrogatoire, mais en revanche, sur ce qui arrive à un enfant soldat quand on le retire à ses ravisseurs, j'ai fait aussi une petite recherche qui m'a beaucoup servi. Parce que ça me permettait de créer justement de favoriser, disons, de renforcer plutôt la vulnérabilité de son fils. C'est-à-dire qu'il n'a même plus, soudain, il n'a même plus cette espèce d'image. Paternelle, sécurisante. Il se sent de plus en plus fragilisé, quoi. Et donc, vulnérable. C'était pour ça. Et puis, pour qu'il y ait aussi un peu une situation que le conflit qui existe déjà entre Baptiste et ses parents, puisque lui, il ne croit plus en Dieu et les parents sont fervents catholiques, que ce conflit se creuse encore, s'augmente encore pour que justement il soit plus vulnérable et plus facilement retournable par ses ravisseurs. Cette scène, évidemment, je l'ai complètement inventée, mais en revanche, je n'ai pas tout inventé. Je me suis servi en fait d'un fait divers réel. C'est l'enlèvement d'une famille française, parents et enfants. Il y avait trois enfants, les parents, il y avait aussi un oncle, mais enfin ça, j'ai supprimé l'oncle, toute une famille qui se sont fait enlever par des djihadistes au Cameroun en 2013. Et c'était la première fois que des enfants occidentaux étaient enlevés par des djihadistes. Et d'ailleurs, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Les djihadistes enlèvent souvent des enfants locaux, mais pas des enfants occidentaux. C'était la première fois. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire mon livre, hein, c'est ce fait divers. Et je me suis servi de certaines choses, donc du fait divers. Par exemple, que c'était une famille très catholique, fervente catholique, ce qui était un peu intéressant dans mon histoire, ce qui pouvait être intéressant dans mon histoire. Et puis que le 4x4 dans lequel ils étaient quand ils ont été enlevés, il s'est embourbé. Ça, c'est un fait réel et qu'ils ont dû abandonner le 4x4, que la police a retrouvé après, et repartir tous à moto. Ça, c'est les seules choses que j'ai reprises. Tout le reste est de la pure invention, même le simulacre d'exécution qui a lieu à ce moment-là, l'histoire du père humilié, tout ça, j'ai inventé. Mais le point de départ du livre est un fait divers réel. Heureusement, dans la réalité, toute la famille a été libérée au bout de 2 mois.
Et donc, est-ce que vous pensez que les adolescents sont plus facilement manipulables que les adultes ?
Je crois. Enfin, peut-être pas tous, mais je crois quand même. Je ne suis pas 100% sûr, hein, je ne suis pas psychologue de métier, mais il me semble que oui, parce qu'ils sont dans un état de transformation, d'évolution, d'adaptation. Ils ne sont pas complètement figés dans la bêtise adulte. Ils ont encore le choix de rester. Ils ont encore un petit choix, quoi, qui leur est parfois imposé, malheureusement. Alors, là encore, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas évident la mise en page, ça veut dire quoi ? C'est les lignes de blanc, par exemple. Les lignes de blanc, est-ce que c'est pas évident ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Pour moi, c'est totalement évident. Ben voilà, c'est ça. Donc, plus il y a de blanc, plus il y a de silence. Et comment pouvais-je faire autrement ? Il n'y a pas d'autre solution. De signifier un silence. J'aurais pu mettre silence, entre parenthèses. Mais bon, c'est moche. Donc, autant mettre des lignes de blanc qui sont un peu calculées, enfin, un peu mesurées. Il y a parfois une ligne, parfois 2 lignes, parfois 3 lignes. Tout dépend du temps que met Baptiste à répondre ou le flic à poser sa question. Mais je comprends la question parce que la première réaction de mon éditeur, j'ai remis le manuscrit, j'ai envoyé le manuscrit par mail. Une heure après, il m'appelle, tu as eu un problème de traitement de texte, qu'est-ce que c'est que ces blancs ? Donc je comprends. Je lui ai dit, lis 3 pages et après tu me rappelles quand tu auras compris. Ça a été assez rapide. Et je pense qu'on s'y fait, non, assez vite. Au début, je comprends, c'est un peu surprenant. Oui. Puis en même temps, ça fait plus de pages et moins de travail. Ça, c'est très important. Comment ? Oui. Je mesure beaucoup mon travail par nombre de pages écrites par jour, alors plus il y a de blanc, ça va.
Pourquoi avoir appelé les pages
de la Ce n'était pas mon choix initial, c'est la seule chose qui a changé entre la remise du manuscrit et la publication. Aucun mot n'a changé, sauf le titre. Je raconte pourquoi ça a changé. C'est tout simplement parce que l'éditeur, mais pas l'éditeur avec qui je travaille, mais l'éditeur qui est propriétaire des éditions Gallimard, qui s'appelle Antoine Gallimard, qui donne toujours son avis sans avoir lu les livres, c'est normal, mais qui est très sympa par ça. Moi, je l'avais appelé Yumai, mon livre. Enfin, il a vu Yumai et il dit « qu'est-ce que ça veut dire, Yumai ?» Donc, c'est pas un bon titre. Voilà. Donc, on m'a demandé de chercher un autre titre. J'ai commencé à feuilleter le livre et puis je suis tombé sur cette phrase, d'ailleurs qui apparaît 2 ou 3 fois, je crois, « Comment Baptiste est mort » dans le texte. Et je me suis dit, bah, c'est ça. C'est ça le thème, c'est « Comment Baptiste est mort ». C'est le thème du livre, donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y aurait peut-être eu d'autres titres possibles, mais celui-là me paraissait évident. Donc je l'ai tout de suite proposé et tout le monde était d'accord. Même Antoine Gallimard.
Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a dit que vous avez été sélectionné pour le prix littéraire ?
Ben, j'étais très content. J'ai été sélectionné pour. Et surpris aussi, quand même. Parce que je me suis dit, c'est quand même un livre un peu dur. Mais bon. surpris et en même temps, je me suis dit, c'est vrai que finalement, les lycéens, ils sont quand même un peu confrontés à la violence extrême, pas directement, mais par les médias. Ils sont confrontés à la violence extrême, ils savent ce que c'est quand même. Donc, bon, un petit étonnement, puis finalement, je me suis dit que c'était à peu près normal. Mais j'étais évidemment très content, parce que je suis... quel auteur n'est pas ravi d'être lu par les jeunes? Parce que ça devient de plus en plus rare. La moyenne des lecteurs, maintenant, je ne sais pas, on peut demander à un libraire qui est là, mais c'est proche de 75 ans, je ne sais pas, la moyenne. J'exagère un peu. Enfin, le lectorat a tendance quand même à prendre un peu de l'âge, là. Donc, et on voit ça quand on fait un salon, ou quand on fait un salon du livre, la moyenne d'âge, est quand même, c'est quand même les retraités, quoi. Donc, pour un auteur, surtout aussi jeune que moi, c'est un peu déprimant. On se dit que dans 20 ans, ils sont tous morts, mes lecteurs. Donc, je suis ravi d'avoir des lecteurs plus jeunes. Oui. Et puis j'ai été sélectionné ensuite par un autre prix des lycéens. Donc je concours pour deux prix des lycéens. Évidemment, je serais furieux si je n'ai pas les deux. Il me faut les deux. Mais oui, pas par cœur, mais je suis évidemment déjà venu pour visiter et puis pour boire et manger. J'aime beaucoup, hein, vraiment, j'aime beaucoup cette région.
Est-ce que vous attendiez à remporter aussi le prix de décembre en novembre?
Alors, pas du tout. Enfin, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai vu que j'étais sélectionné, je me suis dit que comme j'étais forcément le meilleur, j'allais l'avoir. Mais avant d'être sélectionné, je ne savais pas du tout. Non, ça a été une très bonne surprise d'être dans la sélection. Et puis dans les sélections jusqu'à la dernière sélection. Et puis le jour même, parce que quand même, on n'était plus que trois au bout, et quand même, les deux autres étaient quand même des bons livres. Hein, quand même, des bons livres. Il y en a un qui est très rigolo, donc c'est quand même un signe de qualité. Et puis, et l'autre que je n'ai pas lu, mais qui était sur le thème de la boxe, et qui me paraissait pas mal aussi. Enfin, ce sont des bons auteurs et voilà, et c'était pas joué parce qu'en plus c'était des auteurs qui ont un peu leur réseau, leurs copains, tout ça, alors que moi j'ai pas beaucoup de réseau. Mais j'avais en revanche l'enthousiasme incroyable de certains jurés qui se sont battus pour moi, vraiment. Dont Amélie Nothomb, par exemple. Vous connaissez Amélie Nothomb? Nothomb, elle aurait, je crois, tué les jurés qui étaient contre moi, presque. Donc ça s'est bien passé, et voilà, donc c'était formidable. Et puis, trois jours après, j'en ai eu un autre. Ça s'est passé un peu pareil. Donc, oui, c'était d'autant plus agréable que, jusqu'à ces prix, mon livre était passé un peu inaperçu. Bizarrement. Donc, voilà, ça a un peu remis un petit coup de projecteur sur le livre qui avait tendance à s'endormir.
Est-ce que vous avez déjà eu des
fans d'inspiration? Pas vraiment. C'est-à-dire que pas quand j'ai commencé un livre. Je peux avoir une panne de sujet. C'est-à-dire, enfin, ou ne pas avoir envie d'écrire un roman. Ce ne sont pas vraiment des pannes. C'est, pendant 10 ans, j'ai plus écrit de romans. J'ai écrit d'autres choses que des romans. Je ne cherchais pas non plus, mais il n'y avait pas de sujet qui me tombait dessus, quoi. Tombait du ciel. Et puis, finalement, il y a un sujet qui est tombé. C'était pas celui-là, c'était pas l'avant-dernier, c'était l'antépénultième. Et puis après, ça a été. Alors, mais maintenant, en revanche, si vous avez des idées, dites-moi, hein, parce que moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai une petite, mais je sais pas du tout si ça va marcher. Parce que mon problème avec ce livre, c'est qu'il est. Vous avez remarqué qu'il est quand même un peu intense. Et il faut trouver, je ne peux pas retomber sur un truc un peu tiède, quoi. Donc, il faut que je trouve un sujet qui soit un peu de la même intensité. Et ce n'est pas simple. Donc, j'ai bien une petite idée, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai pas commencé encore.
Et c'est quoi cette petite idée ?
Pardon ?
C'est un peu indiscrète.
Je n'ai pas entendu. Ah non, c'est ça. Ce n'est pas que c'est indiscret. C'est que tant que j'ai pas commencé, ça sert à rien. Puis je suis un peu superstitieux, vous comprenez ? Vaut mieux pas. Mais si j'avais écrit 10 lignes, je vous l'aurais dit. Parce que si j'écris 10 lignes, c'est que ça va aller jusqu'au bout. Mais là, j'attends un peu. Mais si vous me filez votre mail, hein, je vous le dirai dès que j'ai commencé. C'est la lecture. C'est par esprit d'imitation, quoi. Comme je lisais énormément quand j'étais petit, ça m'a donné envie d'écrire, de faire pareil, de devenir Jules Verne ou ce genre, quoi. Donc, j'étais assez ambitieux, vous voyez. Et j'étais tout petit à ce moment-là, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à écrire des trucs... qui n'ont comme ça, quoi, des petits essais d'écriture, parce que j'avais envie de faire pareil. Je trouvais que c'était formidable comme activité d'écrire des belles histoires. Donc c'est ça, c'est en lisant qu'on devient écrivain. Pas toujours, hein, mais souvent. Alors en tant qu'écrivain, j'ai eu quelques petits chocs littéraires dans ma vie, pas énormément, mais qui sont quand même qui ont été durables. Alors, ça va vous paraître un peu prétentieux, mais le premier, c'est Marcel Proust. J'avais 17 ans, j'étais en première. J'étais quand même assez littéraire, hein, faut le dire. Et là, quand même, ça a été un choc. Et ensuite, ce sont des auteurs qui sont très peu connus, qui m'ont encouragé. Il y a un auteur qui m'a énormément inspiré pendant assez longtemps, mais que personne ne connaît, enfin très peu, qui s'appelle François Augiéras. Voilà, qui est qu'on trouve dans les bonnes librairies, mais qui est quand même très peu connu et qui est mort depuis déjà. Je crois qu'il est mort en 75. Hein. Il est mort jeune, il est mort quasiment clochard, dans une grotte où il habitait. Quoi. Il est mort d'une pneumonie parce qu'il ne se soignait pas, il était hors du monde. Voilà, ça c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Il y a quelques films aussi qui ont beaucoup compté, comme par exemple les films d'un cinéaste indien qui s'appelle Satyajit Ray, que tout le monde connaît ici, bien sûr. Non, il est mort aussi. Il est mort aussi. Mais il a fait une trilogie qui est absolument magnifique, qui s'appelle la trilogie d'Apu. Ça, on voit un enfant qui grandit, qui devient adulte. Et c'est 3 films. C'est merveilleux. Voilà. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais ça ne me vient pas comme ça à l'esprit. Non, il y a quand même l'auteur sur lequel j'ai fait ce qu'on appelait, je ne sais pas si on appelle ça encore toujours comme ça, ma maîtrise de lettres, qui est Michel Léris, que évidemment personne ne connaît non plus, mais qui est un grand écrivain du XXe siècle, qui lui a passé sa vie à écrire son autobiographie. mais d'une façon magistrale. Donc il a écrit, je ne sais pas combien, des milliers de pages sur sa propre vie, mais d'une façon spéciale, quoi. Très, très bon auteur aussi. Et sinon, pas énormément de choses ont été vraiment des chocs comme ça. Il n'y en a pas énormément, quand même. Il y en a peut-être d'autres des plus connus, mais qui pourraient faire écho en vous, mais je ne vois pas pour l'instant.
Lisez-vous encore des romans
Presque pas, sauf ceux de mes amis écrivains, je suis bien obligé. Sinon, on va se fâcher. Donc, je m'efforce de lire les manuscrits de mes quelques amis écrivains. Enfin, c'est des bons, donc ça va. Mais sinon, non, pas trop d'écrivains contemporains. Ou alors, non. Enfin, dernièrement, j'ai lu le dernier prix Goncourt. Voilà, ce qui m'arrive jamais. Mais là, tout le monde me disait que c'était très bien, en particulier mon éditeur, évidemment, puisque c'est les... et comme je passais un jour chez mon éditeur, il m'a dit, bah, tiens, prends-le, tu verras, celui-là, il est très bien. Bon, bah, j'ai lu le Leïla Slimani, qui est, ma foi, pas si mal, pas si mal. Le Goncourt a fait bien pire que ça, hein, quand même. Donc, moi, j'aurais enlevé peut-être un chapitre, mais enfin bon. C'était quand même pas mal. Et puis, il m'est arrivé un truc curieux avec ce livre, c'est que j'ai reçu des lettres de félicitations d'écrivains. Ce qui m'était jamais arrivé. D'écrivains que j'avais jamais lus. Donc, j'ai quand même regardé un peu ce qu'ils faisaient. Puis, ce qu'ils trouvaient ce livre très bon, c'est que ça devait être de très bons écrivains. Donc, j'ai découvert Catherine Cusset, par exemple, qui m'avait écrit une très, très belle lettre et qui vient d'écrire un roman, là, qui a pas mal marché, qui n'est pas son meilleur, à mon avis, parce que j'en ai lu plusieurs et il y en a quelques-uns qui sont très, très bien. Voilà, quelques contemporains. Mais sinon, je lis assez peu mes contemporains. Il y en a assez peu qui me donnent envie de les lire, c'est ça le problème. Voilà, sinon il y en a un qui est assez bon, que je vous conseille, parce que je crois qu'il a vraiment, il est vraiment accessible à tous, même les gens qui lisent peu, qui est un relativement jeune écrivain qui s'appelle Tanguy Vielle, qui est aux éditions de Minuit, qui est pas mal du tout. Voilà, mais sinon il n'y a pas beaucoup qui m'inspirent, hein, franchement. Mais c'est normal, je pense que tous les écrivains... c'est rare que on me l'a confirmé encore, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Il y a assez peu d'écrivains qui lisent leurs confrères, quoi. Encore vivants. Ils attendent qu'ils soient morts. Alors, une fois que je suis parti, pas trop. Pas trop de difficultés. La seule petite difficulté, c'était justement le dialogue, parce que l'interrogatoire. Parce que moi, je n'ai plus tout à fait l'âge de Baptiste, et j'étais pas sûr que la façon dont il parle soit naturelle pour son âge. Donc, j'en étais pas sûr, mais. Donc j'ai fait quelque chose d'assez... J'ai quand même considéré que ce garçon était un bourgeois de bon niveau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'argot des cités, par exemple, de ce genre, quoi. Qui parle un français à peu près français. Et c'est tout. Sinon, à part ça, c'était ma seule... fallait que ça semble le plus naturel possible. Et je pense que je n'ai pas trop raté mon coup, parce que je suis allé dans un autre lycée, j'étais au lycée français de Londres récemment, où ils ont fait des petites scènes, les élèves, où ils jouaient le dialogue, quoi. Et je trouvais que dans leur bouche, les paroles de Baptiste passaient tout à fait bien naturellement. Donc je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que ça passe pas mal.
Est-ce qu'il y a des difficultés à se faire éditer de nos
livres ? Quand on est bon, aucune. Vraiment. Le problème, c'est qu'il y a un bon sur 10 000 postulants. Donc, enfin, bon, tout est subjectif, bien entendu. Mais je pense que... Enfin, non, c'était quand même une petite boutade quand j'ai dit quand on est bon, il n'y a aucune difficulté. Parce qu'on peut être très bon, mais le manuscrit... Et ne rentre pas vraiment dans le moule, ou est un peu particulier, je ne sais pas, ou par le sujet, ou par la forme. Ça peut être très bien, mais tous les éditeurs vont dire « ouais, c'est très bien, mais c'est invendable. On va en vendre 20, alors bon, c'est vraiment très bien son truc. » Et comme ils sont un peu paresseux, ils ne vont pas se dire « on va faire un effort énorme pour que ça marche, un peu. » Ça peut arriver aussi, disons. Mais je pense que c'est quand même assez rare et que les bons livres trouvent un éditeur. Enfin, je l'espère quand même. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon premier roman, je l'ai envoyé par la poste à deux éditeurs. Il y en a un qui l'a refusé et l'autre qui l'a accepté.
Reconnu
en France ou internationalement? Ah non. Non, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas. Non. Et tout simplement parce que la planète s'est plutôt américanisée. Elle ne s'est pas francisée. Loin de là. Donc, on est un peu là, on est soumis à l'empire américain quand même, à tout point de vue. Ce qui n'est pas toujours désagréable. Hein. Ils font de très belles choses, les Américains. Mais ils dominent.